L'ONF, c'est un établissement public à caractère industriel et commercial, c'est-à-dire qu'il provient du démantèlement de l'administration des eaux et forêts. Et en tant qu'établissement public, il doit avoir un bilan, un budget équilibré. Alors qu'une administration, elle est alimentée par les fonds de l'État.
Quel rôle joue l'ONF dans la filière bois?
L'ONF, donc, produit 40% de la matière première bois en France, avec 25% de la surface forestière. Et il a un rôle moteur, l'ONF, car c'est lui qui alimente en premier les grands acheteurs de bois au plan français, mais aussi international.
L'ONF, c'est l'Office national des forêts. Comment sont gérées les forêts allemandes, par exemple, autrichiennes ou scandinaves? Sur le même principe?
Alors, oui, pour les forêts publiques, il y a des principes qu'on retrouve, nous, dans le code forestier, qui sont la gestion multifonctionnelle, c'est-à-dire les fonctions essentielles de la forêt, produire du bois, accueillir du public et gérer la biodiversité et l'eau, la ressource en eau et l'air qu'on respire.
L'ONF est responsable en France de la gestion de 25% des forêts. 25% des forêts sont publiques en France. Est-ce qu'on peut rapidement parler du passé de ces forêts, de leur présent?
Ça dépend beaucoup des régions forestières en France. Il y a des cultures forestières qui sont très très anciennes et très très ancrées dans le nord-est de la France, par exemple. Nous avons dans le centre de la France des forêts emblématiques avec les futaies Colbert de Troncé, où là donc il y avait des futaies de chênes magnifiques qui avaient été plantées à l'époque. Et après nous avons beaucoup de pays comme les Pyrénées, mais aussi le Massif central, où là il y avait beaucoup plus une vie paysanne autour des forêts et où il y a eu une gestion de l'État affirmée, souvent à partir du code forestier, à partir du 19e siècle, avec une péréquation nationale qui est intéressante, mais il y avait aussi eu dans les zones montagnardes donc des heurts qui ont été importants entre l'État et puis les populations montagnardes. Mais ça remonte à il y a 200 ans.
Et puis aussi, ce sont les grandes missions d'intérêt général que sont la lutte contre les incendies en forêt et la restauration des terrains en montagne pour éviter les problèmes d'avalanche, d'érosion, d'inondation qui découleraient de terrains incapables de retenir les éléments dans les périodes d'accidents climatiques.
Vous participez à une marche pour la forêt, vous venez de le rappeler, il existe en réalité plusieurs forêts. C'est quoi les problèmes qu'on trouve dans ces différentes forêts?
Le problème essentiel, en fait, que nous dénonçons, c'est la perte de moyens de l'établissement public avec des restructurations depuis les années 80, avec une perte des effectifs qui sont passés de 15 000 personnels à aujourd'hui moins de 9 000, alors qu'on nous annonce encore une baisse des effectifs de 1 500 personnels dans les 5 années qui viennent. Cela veut dire que l'établissement n'est plus en capacité de faire face à toutes ces missions. Moins de personnel au service des collectivités locales qui ont déjà des budgets souvent ponctionnés par la baisse des crédits de l'État. Donc, de plus en plus, les personnels ont des difficultés à remplir les trois missions fondamentales et on leur demande, comme nous sommes un établissement public à caractère industriel et commercial, de dégager plus de recettes au détriment des autres missions, c'est-à-dire de vendre plus de bois et de laisser de côté un peu la biodiversité et l'accueil du public.
Oui, c'est ça qui est important. C'est pour ça que nous sommes aussi fonctionnaires et agents publics assermentés de l'État, parce que là, ce qui est important dans la gestion forestière, c'est la multifonctionnalité. Il y a une partie économique qui est donc très importante avec la filière bois, donc c'est un matériau noble, matériau écologique qui fait vivre plus de 500 000 personnes en France. Il y a aussi les fonctions environnementales, de protection générale de la biodiversité. Et il y a aussi les fonctions sociales avec l'accueil du public, la protection des captages d'eau potable et la protection contre les risques naturels, contre les inondations, les chutes de blocs et glissements de terrain. Et donc le gros problème que nous avons, c'est depuis 2002, donc libéralisation des services avec une gestion comptable, même pas de la forêt, mais de l'ONF. Et avec, donc les choses sont inversées, c'est l'ONF qui se sert de la forêt pour l'établissement, alors que ça devrait être l'inverse. Et ce qui est dénoncé par nous autres forestiers depuis 15 ans, c'est que nous avons donc un modèle économique qui ne fonctionne plus, c'est-à-dire qui est assis sur les recettes bois. Donc ça pose deux problèmes. Donc un premier problème, on va dire purement économique, les cours du bois se sont effondrés depuis 15 ans, donc ça n'assure plus le financement de notre service. Et la seconde, on va dire d'autres peut-être un peu plus philosophiques, est-ce que le service gestionnaire forestier doit être financé uniquement par des coupes de bois? Donc c'est une question que je pose. Et cette question que l'on pose depuis 15 ans à notre direction, nous avons systématiquement une fin de non-recevoir. Ils savent mieux que nous comment gérer l'ONF. Et aujourd'hui, nous sommes extrêmement en colère parce que l'ONF est en situation quasiment de cessation de paiement. Donc en situation d'échec économique. Et donc tous ces chefs qui ont pris ces décisions de façon unilatérale, en nous renvoyant dans nos buts, en disant qu'on n'y connaissons rien, ce sont eux les responsables. Ce sont eux les responsables, donc pour nous, pour nos familles, puisque c'est quand même notre emploi, et aussi donc pour la forêt française. Et donc là, nous sommes donc extrêmement en colère. Il est important, comme nous nous heurtons à un mur, d'alerter la population française. C'est pour ça que nous faisons une marche. C'est pour ça que nous appelons toute la population à participer à la marche et à intervenir dans les débats. Ce n'est pas que les forestiers qui doivent décider de ce que l'on doit faire en forêt. On doit être au service de la population. Donc en plus, il y a un film fait par un Corrézien, là, par M. Drouet, Le temps des forêts, qui pose des questions relativement similaires. Donc c'est ça, on va dire, l'essence de notre marche pour la forêt aujourd'hui, quoi.
Cette marche pour la forêt est portée par une intersyndicale de l'ONF. Est-ce que vos inquiétudes sont partagées par une majorité du personnel de l'ONF ?
Oui, depuis 2002, donc il y a une libéralisation qui est en marche. Pour être factuel, en 2005, par rapport au climat social, à l'intérieur de l'ONF, il y a une étude Ipsos qui a été faite, qui indiquait qu'il y avait une rupture de confiance entre la base, donc les gardes forestiers, les techniciens, les secrétaires administratifs de l'ONF, et la direction, et avec des ingénieurs qui, globalement, allaient dans le sens de la direction. Les choses se sont dégradées depuis, et aujourd'hui, nous avons tout. Les organisations syndicales, à l'exception d'une qui représente 5%, qui sont en situation de rejet de la direction générale. Pour dire, donc, il y a la CGT, il y a aussi Solidaires Forêt qui sont en opposition, mais cela remonte jusqu'à la Confédération Générale des Cadres qui ont démissionné des instances, les comités techniques, on va dire les comités d'entreprise dans les services publics, qui ont démissionné, qui ne sont plus en mesure d'assumer leur mission d'élus du personnel. Donc il y a un rejet franc et massif des personnels vis-à-vis de la direction, qui va même au-delà des personnels qui se reconnaissent d'action syndicale. Aujourd'hui, auprès des gardes forestiers, nous en avons une bonne partie qui pense sincèrement que la direction est là pour détruire l'établissement.
Malgré tout, il y a une partie des personnels qui sont dans un état de désespérance et qui ne croient plus non plus à l'action syndicale. Et le but de cette marche, c'est justement de faire comprendre à l'ensemble des forestiers qu'on peut encore se battre pour défendre son métier et qu'on doit même, c'est un devoir quand on est forestier, de se battre parce que c'est un métier passionnel et il faut faire comprendre à la population que gérer correctement une forêt, c'est essentiel pour l'avenir des générations futures.
Qu'est-ce que vous demandez? Une démission des dirigeants de l'ONF, une prise en compte des avis des techniciens de terrain dans les décisions stratégiques prises par la direction, ou encore aller dans le sens de ce que propose le RAF, le réseau des alternatives forestières, à savoir une sylviculture douce?
Alors, ce n'est pas forcément la démission d'un directeur général qui va changer la politique parce qu'elle est menée par un gouvernement et elle est la suite de ce qu'ont fait les gouvernements précédents. Ce que nous demandons, c'est une réelle prise de conscience de la nécessité de gérer correctement le patrimoine forestier qui est un bien commun pour l'avenir des générations et aussi parce que dans la période que nous vivons avec le changement climatique, au contraire, le besoin de soigner mieux la nature est essentiel si nous voulons éviter les catastrophes qui se profilent dans les années qui viennent.
Oui, et puis pour être très prosaïque, donc aussi on se pose donc la question du financement donc du service public. Donc est-ce qu'il doit vraiment être toujours assis sur les coupes de bois? Est-ce qu'il ne faut pas trouver d'autres sources de financement? Il faut aussi penser à notre implication dans la vie de la ruralité, que ces services de l'État là, soient toujours présents là. Et donc c'est une vraie question donc, qui se pose aussi auprès de la population, puisque c'est elle qui nous finance. Donc quel financement, à quelle hauteur et par quelle méthode est-ce qu'il faut que l'on soit financé, quoi? Donc ça, c'est l'autre question.
Vous craignez une privatisation de l'ONF?
Oui, c'est certain que avec les mesures qui sont annoncées, encore une baisse d'effectifs de 1500 personnes, l'ONF sera de moins en moins en capacité de répondre aux sollicitations de nos partenaires qui sont pour une grande partie les collectivités locales. Il faut rappeler que l'ONF gère 4,5 millions hectares de forêts, dont 2,5 millions de forêts des collectivités et seulement 1,5 million hectares de forêts domaniales. Et si nous perdons la confiance des collectivités locales, il est évident que l'avenir de l'établissement sera remis en question, car il ne peut pas se contenter de gérer les forêts domaniales.
Si jamais l'ONF était privatisé, on se retrouverait dans la situation d'une gestion privée d'un bien public. Est-ce que vous craignez aussi à moyen terme que ce patrimoine collectif, ce bien public, devienne privé ?
Il y a une contradiction forte, c'est que le monde économique actuellement fonctionne sur des objectifs à court terme et la forêt doit obligatoirement être gérée sur le long terme.
Oui, ben, s'ils veulent aller jusqu'à la privatisation des forêts, je pense qu'on peut là les attendre de pied ferme. Même en Angleterre, là, dans des pays, on va dire, très très libéraux, quand ils ont voulu vendre les forêts de l'État, c'est là qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait un très fort attachement des populations à ces forêts-là. Il y a eu un mouvement très très fort et qui a fait reculer les gouvernements anglais. Donc s'ils veulent faire la même chose en France, nous les attendons, quoi.
Vous avez parlé de l'importance de la forêt pour lutter contre le réchauffement climatique. Vous pouvez nous en dire plus ?
L'intérêt de la forêt, c'est de fixer le carbone. Et à partir du moment où on l'exploite, soit on l'exploite pour le stocker dans des meubles ou dans des habitations, mais si on en brûle trop, on le rejette dans l'atmosphère. Et là, au lieu de lutter contre le changement climatique, on va encore accélérer le phénomène et c'est le risque actuellement avec le développement des énergies renouvelables dont le bois représente en France 50%.
Après, oui, c'est effectivement le bois, globalement, c'est quand même un matériau écologique quand il est exploité d'une façon correcte, quand on a une bonne gestion sylvicole. Entre quand on connaît le coût énergétique pour produire de la brique, avec donc les briqueteries, là où il y a beaucoup de combustion de matériaux fossiles, par rapport à du matériau bois, est-ce qu'il vaut mieux avoir brûler du gaz ou est-ce qu'il vaut mieux brûler du bois, sachant que le bois, c'est renouvelable, cela pousse. Quand on peut aussi stocker du bois dans les charpentes, etc., donc cela est mieux. Après, il faut avoir une bonne gestion forestière, parce que le bois stocké en forêt, pour moitié, il est dans les arbres, pour moitié, il est dans le sol forestier. Il est très important d'éviter autant que possible les coupes rases, parce que là, nous minéralisons, nous rejetons dans l'atmosphère tout le stock de carbone qui est sous nos pieds. Donc c'est pour ça que l'on voit qu'il est important d'avoir une gestion forestière fine pour effectivement répondre à ses besoins en carbone. Mais après, le changement climatique, c'est aussi un risque pour la forêt. Donc là, nous sommes sur des choses très complexes, tant en termes de changement de climat que d'adaptation des essences. Donc on ne peut pas avoir des certitudes aujourd'hui. Mais on sait qu'avec le changement de climat, les arbres vont avoir beaucoup de mal à s'adapter, quoi. Et puis comme ce sont des êtres relativement peu mobiles, donc là aussi, il va falloir être très très vigilant. Peut-être qu'il va y avoir des catastrophes à venir. Donc là, il va falloir aussi avoir un service prêt à assumer des événements dramatiques. Ça a été le cas après la tempête du millénaire à l'an 2000. Et il faut que nous soyons prêts pour les événements, les grands événements qui vont arriver d'ici 2050-2100.
J'entendais récemment à la radio un intervenant parler de la forêt comme étant un secteur lucratif. Qu'est-ce que ça vous inspire ?
Il est certain que quand on voit l'attraction de la forêt par des grandes entreprises, des assurances, des compagnies d'assurance, des banques, la caisse de dépôt qui est consignation, qui est le premier propriétaire privé en France, la forêt représente une source de revenus importante, mais ça dépend de quelle forêt on parle. Pour nous, forestiers de l'État, ce qui est essentiel, c'est d'assurer la pérennité de la forêt et de gérer la forêt en respectant les trois missions fondamentales qu'on a déjà évoquées précédemment. Dans le privé, souvent, la forêt est considérée comme un revenu qu'il faut engranger le plus rapidement possible. Et dans ces conditions-là, les deux missions que sont l'accueil du public et la préservation de la biodiversité ne sont pas prises en compte comme elles le devraient.
Si vraiment la forêt peut être lucrative, dans ce cas-là, quel sens cela a de supprimer des emplois en forêt de la part du gouvernement ? Parce que là, nous avons, par exemple, l'école de Mémac, ici en Corrèze. Le gouvernement est en train de fermer les portes de la forêt à la jeunesse. C'est aussi quelque chose qui nous fait mal. À l'ONF, la moyenne d'âge tourne autour de 50-55 ans, quoi. Et après, je n'aime pas avoir le terme de forêt lucrative, mais effectivement, elle a aussi une fonction économique. Ce n'est pas la seule, mais c'est l'une des fonctions. Il peut y avoir, je pense, une grande économie du bois moderne qui peut permettre à faire vivre la France d'aujourd'hui. Ouais.
Quand vous parlez du gouvernement, les attaques que vous dénoncez contre l'ONF, elles ont commencé en 2017 ou bien avant ?
Elles ont commencé en 2002 et tous les gouvernements successifs, pour ce qui concerne l'ONF et pas le reste, ont continué grosso modo dans les mêmes directions. Alors les uns qui pensaient aller plutôt dans la libéralisation de services, qu'en vendant des services de l'ONF auprès de privés pour expertiser des arbres auprès de gens fortunés, que ça pourrait financer le service, d'autres qui pensaient plus à ce que l'on commercialise différemment les bois. La seule chose qu'ils ont tous su faire, c'était supprimer les postes. Ça a trouvé la fonction économique de la forêt, savoir la valoriser, c'est quelque chose qu'apparemment ils ont eu du mal à faire. Trouver des financements pour avoir un service public forestier, c'est quelque chose qu'ils ont eu du mal à faire. Par contre, supprimer les postes, ça c'est quelque chose que tous ils ont eu en tête. Toutes tendances confondues depuis 2002. Ça me fait du mal de le dire, mais c'est la réalité.
Malheureusement, et ça avait été évoqué dans un rapport qui avait été réalisé par Jean-Louis Blanco il y a déjà un certain nombre d'années, dans les années 90, il disait que la France était le pays européen qui investissait le moins dans sa forêt. Moins de 10 euros par citoyen. Et or, d'autres pays ont plus de respect pour la forêt, notamment les pays comme la Suisse, l'Allemagne, qui ont des forêts justement en zone de montagne et dont les enjeux de protection des populations sont mieux perçus par les pouvoirs publics.
Vous êtes parti de Perpignan le 18 septembre. Vous allez marcher jusqu'à la forêt du Troncé pour y arriver le 24 octobre. Vous pouvez un peu nous raconter le quotidien de cette marche ?
Ben, c'est une marche qui permet d'abord de découvrir le paysage et puis aussi de rencontrer des gens très divers, des marcheurs qui viennent se joindre à nous parce qu'ils aiment la nature ou parce qu'ils sont forestiers ou retraités. qui ont des motivations très diverses, et ces échanges sont très fructueux, comme les rencontres avec les populations qu'on trouve sur le chemin et qui nous font part de leur avis sur la forêt qu'ils fréquentent quotidiennement, les élus aussi que nous rencontrons et qui le plus souvent affirment leur intérêt pour l'Office national des forêts et l'action de ses personnels. Et nous avons déjà un certain nombre de témoignages que nous pensons mettre en valeur lors de l'arrivée le 24 et le 25 octobre à Troncet.
Après, ce qui fait chaud au cœur, bon, moi je suis d'une région, les Pyrénées, où, qui était éloignée de la marche, donc je vois les gens autour de moi bon, pour qui c'est difficile de participer à la marche, mais on sent que l'on est soutenu par la population et ça fait chaud au cœur. Donc l'on voit d'une façon générale, il y a un véritable attachement quand même de la population. On voit le succès du livre de Vaubel là, sur l'intelligence des arbres, le succès aussi des films sur l'intelligence des arbres, alors que c'était pas les grandes affiches, il n'y a pas eu de grands moyens de promotion. Et aujourd'hui, le film là, de François-Xavier Drouet, donc, qui est corrézien, sur le temps des forêts, et qui a un succès partout en salle, alors qu'il est souvent diffusé par des associations naturalistes, par des syndicalistes forestiers, par des amoureux de la forêt, plus que par une promotion nationale avec de la publicité sur la télé ou comme ça, quoi. Et ça nous fait vraiment chaud au cœur. Et je pense que ces gens-là qui doivent vraiment dire ce qu'ils veulent, ce qu'ils attendent de nous, ce qu'ils attendent de la forêt, quoi.
Quand on parle de marche pour la forêt, on parle en réalité de 4 marches simultanées qui vont se rejoindre le 24 octobre dans la forêt du Troncet. Pourquoi avoir choisi cette forêt comme dernière étape de ces marches ?
Alors, la forêt de Troncet, pour les forestiers publics, c'est le symbole de la gestion sur le long terme. Ce sont des chênes qui ont été plantés du temps de Colbert pour produire des bois de marine. Et ils ont été cultivés pendant, si on peut dire, pendant 300 ans. Et aujourd'hui, ce sont des bois de grande valeur, mais qui servent à autre chose. Et ça, c'est donc significatif que l'action des forestiers, elle s'inscrit sur le long terme, dans le temps, et on ne peut pas préjuger de l'usage qui sera fait du bois. L'important, c'est de produire la meilleure qualité possible dans le respect de la nature.
Je vais tenir un propos volontairement caricatural. Une grande partie des citadins connaissent mal ou peu la forêt. Les ruraux pensent la connaître parce qu'ils vivent à côté de la forêt. D'après ce que j'entends, les dirigeants sont coupés des réalités du terrain et voient plutôt la forêt comme un trésor, une richesse sous-exploitée. Les forestiers, peut-être, sont victimes d'un attachement très fort à la forêt dans laquelle il travaille et qu'il finit peut-être par considérer comme étant la leur. Est-ce que la forêt n'est pas devenue un objet de fantasme opposé, contradictoire ?
C'est sans doute un objet de fantasme, mais dans ce cas-là, je pense pas que ce soit négatif. Au contraire, c'est même extrêmement positif. À la limite, enfin bon, c'est toujours mieux de la connaître, mais que ruraux ou urbains, ce qui les unit, c'est qu'ils aiment la forêt. Et c'est ça, je pense, qui est quand même l'essentiel et qui est le cœur de la chose. Après, on peut parler de toutes les fonctions qui sont très importantes, mais au cœur des choses, et puis même si nous faisons ce métier-là, je pense que c'est l'amour de la forêt qui nous réunit tous, quoi. C'est ça qui est le plus important, je pense.
Il y a peu de temps, le gouvernement a lancé une grande campagne pour promouvoir l'usage du bois. Mais en fait, cette campagne, elle tourne autour du thème « J'aime la forêt ». Et de là à dire que aimer la forêt, c'est forcément utiliser du bois, il y a parfois peut-être quelque chose d'un peu rapide. Mais c'est vrai que le bois, c'est également un matériau important qui se retrouve dans tous les usages de l'existence. Et en cela, les deux sont quand même liés, la forêt et le bois.
Comment concilier les différentes façons de voir la forêt, à savoir sauvegarde, gestion, exploitation ? Est-ce qu'il y aurait besoin d'organiser des états généraux de la forêt ?
Oui, effectivement, il y a besoin d'organiser des états généraux de la forêt. Il y en a même eu qui ont eu lieu il y a 2-3 ans, je crois, avec des débats qui avaient été très, très intéressants. Après, effectivement, ça fait partie du métier de forestier d'être sur un travail d'équilibriste. Et il est très important, je pense, que ce soit centré sur la même personne. C'est aussi pour ça qu'en interne, on s'opposait à la spécialisation du travail. C'est important que ce soit la même personne qui suppose sur chaque forêt l'importance relative entre la fonction économique, la fonction d'accueil du public, la fonction de paysage, la chasse aussi, avec la protection environnementale, et qui ont parfois des objets contradictoires. Des fois, des endroits qui ont vraiment une grosse richesse naturaliste, il vaut mieux que les gens y aillent peu, quoi. Il y a des endroits à préserver, à cacher aussi, même des fois, quoi. Donc, c'est très important d'avoir au cœur de tout ça et au centre de la gestion un garde forestier polyvalent qui a une certaine indépendance et qui puisse faire l'équilibre entre tout ça, quoi. Après, effectivement, c'est important de recruter des gens qui ont un très, très bon sens de l'équilibre.
Si je vous comprends bien, cette marche pour la forêt n'est pas là pour défendre les intérêts d'une corporation, mais bien pour rappeler que la forêt est un patrimoine public, un bien collectif.
Oui, et aussi pour témoigner de la nécessité d'avoir un service public en capacité de mener à bien l'ensemble des missions qui sont dévolues dans le sens de l'intérêt général et de ce qu'est la forêt, un bien commun et non pas la propriété de quelques industriels.
Dans une dizaine de jours, les quatre marches se retrouveront dans la forêt du Troncé. Et après ?
Alors justement, après, il faudra continuer si les pouvoirs publics, les gouvernants ne veulent pas entendre le message que nous portons. Il faudra continuer par d'autres moyens d'action et toujours en essayant de médiatiser nos actions pour que le discours que nous portons, le souci que la forêt soit prise en compte pour ce qu'elle est et mieux protégée, mieux gérée, soit entendu par le gouvernement et que les moyens soient mis pour le faire.
Après, ce qu'on voudrait surtout dire, c'est donner rendez-vous à tous donc, le 25 octobre à Troncé. Sur le site internet, vous retrouverez très facilement la marche pour la forêt. Donc il va y avoir beaucoup d'associations, d'animations, des fêtes. Ça va être vraiment un grand moment. Donc tous les amoureux de la forêt sont conviés le 25 octobre à Troncé, quoi. Donc on ne savait pas où était la forêt des Carnutes, donc c'est pour ça que l'on a choisi Troncé.